bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux sur ce nouvel espace qu'on appelle l'Agora Hall. Et nous sommes ici pour une conférence intitulée « La 11e heure ». Ce titre est en référence à un film qui sera projeté à l'issue de la conférence dans la salle du cinéma juste en sortant tout droit et qui sera présenté par la déléguée artistique Jana de Batz. Et la 11e heure, est-ce qu'on va faire un petit sondage participatif? Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu? Ah!
Bon, alors, oui. La 11e heure est le dernier film de Disney, non?
Non. C'est le titre d'un épisode de Doctor Who aussi, mais il ne faut pas confondre.
Ah, mais ça, ils l'ont vu.
Ça, je pense que la 11e heure de Doctor Who, c'est le premier épisode de la 5e saison. Je pense que du nouveau Docteur, je pense que tout le monde, beaucoup de gens ici l'ont vu. La 11e heure, c'est un film, c'est un documentaire qui a été produit en 2008-2009 par Leonardo DiCaprio. Il s'est fait connaître, il a été surtout connu comme ce gars parce que Leonardo DiCaprio, pour ceux qui ne le savent pas, est un homme à la tête d'une fondation qui milite pour l'écologie, le développement durable, les énergies renouvelables. Et il a produit un film autour duquel plusieurs intervenants scientifiques, dont Stephen Hawking par exemple, interviennent sur le changement climatique, sur justement ce qu'il appelle le concept de la 11e heure, c'est-à-dire que l'humanité arrive à la 11e heure de son existence vers ce dernier virage et que la planète Terre est en danger. Ce film a connu un petit succès, c'est pour ça qu'on avait envie aux Utopiales de le projeter, mais on avait aussi envie de faire parler certains de nos auteurs. Donc à côté de moi, j'ai Anne Garue qui est une auteure émérite, qui a écrit La Vestale du Calix aux éditions Atalante, qui a écrit des essais sur le féminisme, sur la notion du genre.
Et récemment, donc, La Fille Geek, qui est une sorte de tome 2 de La Vestale, mais qui peut se lire de façon complètement indépendante. On retrouve quelques personnages, mais c'est un tout autre propos.
Voilà. À côté de nous, nous avons Monsieur Froideval, qui est un homme multitalent, qui est connu surtout pour les chroniques de la Lune Noire, mais pas que, pour ses expériences ludiques. Je te laisse compléter pour pas mal de choses et son point de vue. On en discutait tout de suite sur un intermède, son point de vue sur la 11e heure et justement sur des solutions pragmatiques. Enfin, nous avons Karim Berroca qui a écrit l'année dernière Le Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie.
Tout à fait.
Qui nous plonge dans dans un monde apocalyptique, un pari apocalyptique avec un message très engagé, tout autant qu'Anne Garue dans son propos sur certains thèmes. Et ma première question, puisque vous avez tous plus ou moins vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors moi, je n'ai pas vu le film depuis des années. Ça marche, ce truc? Oui. Je n'ai pas vu de film depuis des années. Quand j'ai vu que j'étais sur la 11e heure, je me suis dit « fichtre !» Et je me suis précipité sur mes outils internautiques habituels pour découvrir que la 11e heure, c'était en fait l'heure extraordinaire de celui qui arrive tard sur le chantier et qui est payé autant que celui qui arrivait à la première heure pour faire le travail. Ceux de la première heure râlent, mais Dieu, qui est toujours juste, c'est-à-dire injuste, dit « Eh ben, ils seront payés pareil, les premiers seront les derniers. » Misère. Alors, après, j'ai pensé au bouillon de 11 heures et là j'étais bien, bien placée et j'ai compris que ce qui pouvait être intéressant par rapport à tout ça, c'était le type d'apocalypse tranquille dont je parle dans mon dernier roman, disons, qui c'est pas du tout l'apocalypse avec des milliers de... L'idée, on va dans le mur, il y a une espèce de projection, film catastrophe et tout, et si l'apocalypse était tranquille? Donc est-ce que... Alors n'ayant pas vu le film, je peux pas en dire grand chose, mais peut-être est-ce qu'on n'a pas, du fait du documentaire, du film, etc., du média même, le média étant le message, une vision complètement hystérique de tout ça qui correspondrait peut-être pas à ce qui pourrait vraiment arriver. Telle est la question.
François?
Oui, enfin, la 11e heure, c'est parce que dans le documentaire, il dit qu'il est 11h59 et à minuit, ben, c'est la fin. Alors, c'est pas la fin de la planète. La planète, elle s'en fout. Elle a vécu bien pire pendant ces milliards d'années. Mais par contre, pour notre biosphère, oui, c'est critique.
Est-ce que c'est alarmiste, du coup, comme message ? Est-ce que tu l'as trouvé...
Bah, c'est pas alarmiste, c'est réaliste. Même souvent, c'est en dessous de la vérité. Le problème, c'est que... Bah, connaissant l'homme, il y a toutes les chances qu'on foute tout en l'air complètement, et puis voilà, quoi. Et qu'ils réagissent, oui, mais trop tard. Déjà, on commence à être un peu trop tard, mais bon.
Karim ?
Ben moi, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Je ne savais même pas que c'était un film, je suis désolé. J'ai découvert le programme des confs il y a deux jours, et donc voilà, je vais écouter. Et j'aurai des réflexions fort pertinentes à vous faire.
Est-ce que GASF, justement, dans sa production historique, pour vous, a été alarmiste, n'a pas su tirer, trop tirer ou pas assez tirer le signal d'alarme ? Est-ce que c'est un bon outil pour alarmer, pour prévenir l'humanité, pour,
Peut-être, c'est un outil qui permet de relativiser notre existence propre. Parce que finalement, en tant que... Je vais m'inclure dans les mâles blancs morts, hein, pour une fois, ce sera pas tout le temps, mais bon, l'espèce de vision qu'on a complètement fermée sur nous-mêmes, l'espèce humaine, l'humain, comme être supérieur, central de la création, est-ce que c'est pas les algues vertes ? Est-ce que c'est pas les cafards noirs ? Est-ce que c'est pas autre chose qui est la race dominante ? Faut rappeler que la Terre, le pire qui lui soit arrivé, parce que le pire qui soit arrivé sur Terre, c'est l'arrivée de l'oxygène. Ça a été une catastrophe sans précédent, l'arrivée de l'oxygène. Ça a tué des milliers et des milliers de bactéries anaérobies qui ont dû se réfugier dans nos intestins et nous créer, nous, grands animaux, enfin nous, les éléphants, tout ça. Donc avec une vision pareille, j'ai pas l'impression que ce soit très grave que cette espèce de grand singe passablement méchant disparaisse de la planète. J'y éprouve même une certaine jubilation. J'attends ça avec gourmandise. Donc...
Par rapport à la science-fiction, bah déjà, je pense que la science-fiction, avant tout, c'est de la littérature. Donc, ça n'a pas forcément la capacité, peut-être le rôle de dénoncer, mais la capacité de le faire. Alors, des fois, ça marche. Des fois, ça permet des prises de conscience. Mais il ne faut pas attendre de la science-fiction de résoudre les problèmes qu'ont créé l'humanité en général. Puisque là, on est quand même dans une grosse crise écologique qui est en train de s'amplifier et qu'on a quand même les moyens techniquement de, peut-être pas de l'arrêter, mais au moins d'inverser progressivement le cours et qu'on le fait pas. Donc faut pas demander aux auteurs de science-fiction de changer le monde alors que les gens qui peuvent le faire le font pas et sont pas très enclins à le faire parce qu'ils ont des intérêts qui sont plus importants que de conserver une terre en... Après, comme tu disais, par rapport à l'humain lui-même, l'humain, il s'adapte. Hein, il s'adapte mieux que n'importe quel animal. Donc si demain, on a des gros problèmes écologiques, on a des tempêtes partout, on a des montées de température, on a la mer qui prend un mètre de... Il s'adaptera. On n'aura plus la même civilisation qui pourra plus fonctionner comme elle est. On n'aura plus ce monde de surconsommation. Mais on aura encore des êtres humains qui probablement feront autre chose. Peut-être encore des conneries, sûrement d'ailleurs, parce qu'ils aiment beaucoup. Enfin bon, voilà.
Si tu as créé par exemple un apocalypse en Paris, c'est pas un message alarmiste, c'était un message, une envie amusante ou c'était...
Oui, c'était un message aux propriétaires parisiens en leur disant qu'il fallait vite qu'ils lâchent leurs appartes parce que ça allait perdre beaucoup de valeur et comme ça moi je pourrais me loger pour pas cher. Non, c'est pas un message.
Et ça a marché.
Ben non, c'est con. C'est pas un message. L'idée du bouquin, c'est pas de détruire tout, mais c'est d'avoir une société justement qui a été balayée et où on peut reconstruire quelque chose à partir de bases qu'on suppose saines dans le roman. Et que voilà, c'est plus facile de construire à partir de rien que tout modifier toute une structure qui est vraiment très très complexe et où évidemment il y a beaucoup d'intérêts qui rentrent en jeu et beaucoup de gens qui sont pas d'accord pour qu'on installe l'anarchie dans Paris. Voilà. Donc ça c'est pour le livre.
Et comment tu Comment tu as quand même un message politique quand même dans tes héros. C'était une volonté de que ces gens qui sont certains de tes personnages sont quand même des communistes. Je pense à Kropotkin.
C'est pas des communistes, c'est des anarchistes.
C'est des anarchistes. Ouais. Mais ce message politique, ces archétypes politiques, t'avais vraiment envie de les placer comme seul survivant.
C'est une histoire de punk et il y a une partie du mouvement punk qui sont très très politisés. Et donc je voulais que ça fasse partie du roman, quoi. Après, voilà.
Est-ce que... Et toi, François, tu en penses quoi des apocalypses, du coup, et de la SF?
Bah, de toute manière, on n'en verra qu'une, alors tu sais... pas persuadé, mais bon... de toute manière, si rien n'est fait très vite, c'est sûr que voilà. Une des seules choses qui fera que ça va changer, c'est à partir du moment où les catastrophes, les tempêtes et toutes les choses commenceront à coûter plus cher à ceux qui foutent la merde, que de là ils commenceront à bouger et à essayer de faire changer les choses rapidement. Faire changer les choses rapidement dans une démocratie, j'y crois pas trop. Dans un pays comme la Chine, il suffit que le parti dise ça, c'est interdit, tout le monde en bicyclette, tout le monde sera en bicyclette. Mais pour les démocraties, c'est mal barré, surtout quand on considère que les cartels, qui sont souvent plus puissants que les nations, en fait, sont ceux qui dirigent le monde et pas les présidents. Et que bah, tant qu'eux, ils voudront rien changer, puis qu'ils voudront toujours que le fric coule à flot, eh ben, on va vers le mur.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions pragmatiques, locales, selon vous, pour...
Bah, les solutions, je ne sais pas, moi je ferais un truc mondial. Par exemple, on a le crime contre l'humanité qui est jamais... qui est maintenant puni par la Hague. Si on chope un ancien massacreur, on le passe en jugement. Je pense qu'il faudrait faire un crime contre la biosphère, jugé aussi à la Hague, et que tous les dirigeants des gros cartels qui foutent vraiment la merde d'une manière pleine et consciente passent en jugement et se retrouvent condamnés réellement, et qu'on arrête de considérer que bah, polluer, foutre le feu à des forêts, etc., et tout, bon, c'est pas grave, en fait. Ça n'a aucune importance. Par contre, l'extinction de la biosphère, là, elle commence, elle est bien entamée. Bientôt, quand on voudra voir certains animaux, il faudra les voir empaillés ou en photo. Et c'est quand même dramatique, quoi. Mais bon, tant que ce n'est pas puni réellement, bah, il ne se passera rien.
C'est bien ce que dit la science-fiction pour les animaux. Je sais pas, on pense aux moutons électriques.
Hein,
alors moi, ce qui me frappe, c'est les strates. Hein, c'est-à-dire si on lit la science-fiction, je sais pas, de Camille Flammarion. Tiens, on a des. Non, mais j'exagère de dire ça, mais on a des catastrophes annoncées. Ensuite, moi, je suis quand même d'une génération qui a vu René Dumont boire son verre d'eau en disant dans 10 ans il y aura plus d'eau, et là il y en a encore. Mais en même temps, oui, c'est vrai. C'est à la fois vrai qu'il y en a plus et qu'il y en a encore. On a cru que la surpopulation allait faire que tout le monde allait être à Zanzibar, hein, tous à Zanzibar, hein, ça date de cette époque, hein, ce roman-là, et il me semble que ce qui est curieux, c'est qu'on a à la fois une vision locale très tranquille, ma foi, achetons notre appartement à Paris à crédit, enfin bon, je sais pas si on y arrive, personne n'y arrive, mais bon, et puis en même temps, peut-être effectivement quelque chose dont on n'a pas une très claire conscience. Alors, le problème, c'est toujours pareil, dans quelle mesure le message joue sur la chose. C'est triste de citer Marinetti, qui a fini comme un sale fasciste, hein, comme vous le savez, mais enfin quand il était jeune et qu'il n'était pas encore un sale fasciste, il avait quand même dit que l'horizontalité de la connaissance allait créer quelque chose de tout à fait différent. Avant, tout ce qu'on savait, c'est que la mère machin était tombée de son arbre en essayant d'aller chercher son chat, et après, tout ce qu'on savait, on sait tout ce qui se passe partout, etc., et finalement, qu'est-ce qu'on sait? Enfin, c'est ça qui est difficile à appréhender. Donc du coup, comme on est au milieu d'un monde de hoax, d'un monde de fausses informations, etc., le doute vient voiler tout ça, et le fameux mur lui-même, il est aussi voilé qu'à la fin de The Truman Show, hein, pour prendre un exemple. C'est-à-dire qu'il y a le moment où, effectivement, la barre du navire craque, rentre dans le mur, mais j'ai l'impression que tout est dans le brouillard et qu'on ne le voit plus très bien. Alors, ceci dit, moi, pour l'apocalypse, j'adore, et donc j'ai fait une première apocalypse dans la Vestale du Calix. Donc, c'est un caramel mou multicolore qui noie Paris, et c'est assez amusant. On est vraiment français jusqu'au bout des ongles. On n'a pas pensé une seconde à noyer New York. C'est assez drôle, hein, de voir que tous les films qu'on a, New York en danger, et mais on s'en fout, on est ici, on n'est pas à New York. Alors du coup, ça, on a toujours un petit sourire ironique hein, quand on va voir un film catastrophe, alors que si on est américain, on doit l'avoir moins. Mais en même temps, on a créé des apocalypses parisiennes. Hein, donc j'ai créé deux apocalypses parisiennes. La deuxième, dans mon deuxième roman, il n'y a plus qu'une seule grande ville. Londres et Paris, c'est une seule ville, avec tout ce qu'il y a autour. Et le reste, c'est Paris et le désert français puissance 1000, c'est-à-dire que des espaces agricoles gardés par des convoyeurs armés, avec des chiens qui ont des droits d'après une charte spéciale de garde de chiens. Enfin bon, un monde où on mange uniquement des composés de des mélanges céréales et légumineuses pour avoir des protéines. Hein. Donc c'est un peu se demander est-ce que le vegan et individualisme, c'est comme ça que je caractériserai rapidement la société d'aujourd'hui, ce vegan, est-ce qu'il pourrait pas mener justement à des choses étranges comme ça? Et l'individualisme, pareil, hein, puisque dans le monde que j'ai fabriqué, on vit comme au Père Lachaise, hein, dans des toutes petites maisonnettes, chacun la sienne. Et il me semble bien que c'est une tendance un peu d'aujourd'hui, individualisme de l'habitat, personne seule, dans des tout petits espaces, dans des studios de 14 mètres carrés, etc. Donc ça, c'est la tendance locale. Hein. Je ne parle pas du tout de l'apocalypse générale, mais c'est peut-être une forme d'apocalypse tranquille, de dégradation peu à peu comme ça, des choses que j'ai voulu montrer dans ce deuxième roman, par exemple.
Est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe de l'être humain à vouloir sauver la planète tout en ayant le nez scotché sur son téléphone, sur une virtualité qui consomme beaucoup quand même de ressources et,
Oui, alors justement, j'ai essayé de faire un monde où il n'y a plus de ressources. Et ce n'est pas difficile. Il suffit qu'il y ait une épidémie qui tue ceux qui ont le savoir, qui sont les vieux par exemple, qui ont fait des études classiques de, là on sent le vieux prof chiant, hein, qui ont fait des études classiques de physique, maths, machin, et puis les jeunes qui connaissent que les procédures et qui savent pas faire, enfin c'est vraiment, et alors mettons qu'ils meurent, mettons que les serveurs soient noyés, on les a mis en mer, vous savez Google veut mettre les serveurs en mer pour les alimenter avec l'énergie marémotrice, on en perd 85%, qu'est-ce que c'est le monde qui reste? Donc c'est la perte de l'énergie, je crois que c'est une angoisse qu'on a très fortement ancrée. Donc là j'ai essayé de faire le système de perte de l'électricité, puisqu'on ne maîtrise plus les processus techniques, donc on ne sait plus faire, et on ne maîtrise plus les sources, donc on n'a plus rien. Il n'y a plus d'énergie, évidemment, très inspiré, non pas de la 11e heure, mais du type qui éteint la planète avec sa zapette, là, dans le truc de 2013, Los Angeles 2013. Peut-être vous l'avez vu ça. À la fin, le type, il éteint toute la Terre. Clic. Puis après, il allume sa cigarette tranquille. Voilà, c'est cool.
Avec un briquet électronique. Non, j'y crois pas ça. Les gens sont des bricoleurs. Enfin, si on arrive à ce niveau de technologie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont eu besoin d'aller bricoler, inventer des trucs. Donc, à partir du moment où effectivement, on fait comme soit c'est dans Ravage où il n'y a plus d'électricité ou
non, mais il peut pas. C'est une hypothèse d'école. On est bien d'accord.
Bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'on a aussi la capacité autant à détruire qu'à créer. Et la preuve, parce que bon, on est quand même dans des cités énormes. On vit dans un confort qui est quand même assez énorme comparé à tout ce qu'on a pu avoir historiquement. La seule chose que je vois, moi, le truc qui me donne un peu d'espoir par rapport à toutes ces crises écologiques qui viennent, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait progressivement et qui est à la fois du côté militant. Vous avez pas très loin de vous un certain aéroport là où il y a quelques petits trucs qui se passent depuis quelques années. Bon, ça c'est le côté militant. Puis sur le côté individuel où les gens commencent à comprendre quand même qu'ils bouffent de la merde, qu'ils ont des trucs qui polluent, qui servent à rien, et qui, alors tout le monde le fait pas. Hein, c'est clair que c'est pas un truc généralisé, mais c'est de plus en plus ça monte. Et si on veut changer quelque chose, c'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui ont tout compris, qui vont changer le monde, c'est parce que la majorité des gens auront cette sensibilité. Donc le jour où, c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est important de faire des films, bon, celui est pas récent, mais des films sur les conditions climatiques, c'est important de parler des choses, c'est important de faire peur aux gens, de leur dire voilà, vous avez des ouragans là, on a un ouragan qui arrive en Europe, c'est un truc qui arrive en fait. Bon, en fait ça arrive pas souvent, ça arrive une fois tous les 20-30 ans, mais ça fait flipper parce qu'on se dit oh, il y a eu beaucoup d'ouragans dans les Caraïbes. Chose qui arrive tous les ans, mais cette année plus violent. Et est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de début de logique où le climat va vraiment, on va voir les effets du dérèglement du climat. Parce que dire aux gens, ouais, la mer va monter de 2 cm en 200 ans, c'est pas très... Ça manque de visuel, en fait. Alors que vous avez 2-3 ouragans qui arrivent sur les Caraïbes et sur la Floride ou le Texas et qui détruisent beaucoup de choses. Là, ça commence à parler aux gens. Et donc, leur faire comprendre au fur et à mesure qu'on est quand même, dans une logique de destruction au niveau écologique, là, qui va être vraiment difficile à inverser, parce que je crois qu'on a quand même passé à un point où, enfin, c'est pas parce que demain on éteint toutes les voitures dans Nantes que tout d'un coup l'atmosphère va se purifier. Ça prend beaucoup de temps, c'est un truc qu'on a mis en marche depuis une centaine d'années. Alors le plus de gens parmi nous, parmi le peuple, par les gens qui ne sont pas des politiciens, qui ne sont pas des gens qui sont dans des grosses entreprises et qui ont des intérêts, le plus de gens vont avoir une voix, vont réagir, vont vivre comme ça, vont dire on va acheter des produits qui ne sont pas des trucs qui sortent des supermarchés dégueulasses, on va favoriser des échanges sur le local, on va aller quand on habite à la campagne, maintenant il y a beaucoup de trucs qui se développent, on va aller chez les producteurs qui traitent moins leurs trucs ou qui font du bio, ça prend de l'ampleur. Et quand ça prend de l'ampleur, les politiciens et les grosses entreprises vont dire ouais, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe là? Je pense que c'est là où est la solution et c'est là où est l'espoir. On va pas attendre que Volkswagen ou n'importe quoi, ou Total, tout d'un coup se disent ah, ça y est, oh là là, peut-être que dans 200 ans, je gagnerai moins d'argent, je vais réduire mes émanations de dioxyde de carbone. Ça, ils le feront pas, ils s'en foutent, ils sont dans le moment, ils sont dans le bénéfice qui est instantané. Et, voilà.
Est-ce que justement, quand tu dis que ça n'intéresse pas les entreprises, il n'y a pas quand même une part de greenwashing, ce fameux terme de on va faire du bio, on va...
Je fais une généralité, hein, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus consciencieux que d'autres. Hein. Je parle des gros groupes.
Mais est-ce que pour vous, c'est une réalité, le greenwashing, par exemple ?
Moi, il me semble d'abord qu'il y a une part de... Il y a quelque chose de bizarre dans le discours qui est la mode. C'est-à-dire que personne ne sait ce que veut dire vegan à 100 km de Paris. Enfin, bon, j'exagère, mais... Et puis, bio, le fait d'aller acheter ses légumes bio...
On va faire un petit test. Qui oui. ne sait pas ce qu'est un vegan ici ?
Bon, là, manifestement, tout le monde le sait, mais là, on est auprès de... Enfin, je parle du public oui, non cultivé, des gens qui sont obligés d'aller au supermarché parce qu'il n'y a rien d'autre à 100 km. Je veux dire, il y a aussi des niveaux de culture. Peut-être l'éducation pourrait jouer un rôle très, très important. Hein. Si l'éducation faisait partie du produit national brut et qu'on ne la comptait pas en déficit, mais en gain, c'est-à-dire, à ce moment-là, ça changerait effectivement les choses. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même un problème lié à
oui,
ça.
Mais ce qui est intéressant au niveau... Au niveau de la nourriture, enfin, c'est pas de la nourriture, mais...
C'est que,
autant dans les grandes villes, où effectivement, il y a des mouvements de gens qui veulent mieux manger, mais aussi dans les campagnes. Dans les campagnes, les gens, et en plus, ils ont accès plus facilement au producteur du coin qui va faire des tomates, du cochon, du ce qu'on veut.
Les banlieues, moi je travaille à Villetaneuse dans le nord de Paris, ouais. Les gens, le Crous a décidé qu'ils allaient mettre des boîtes en plastoc et dedans il y a des frites et du gras. Donc on n'est pas très avancé sur la notion de vegan, ni même sur la notion de bonne nourriture.
Vegan, hein.
Et c'est le Crous, un organisme très, très bien qui a fait ça. Quoi. Donc il y a quand même des niveaux sociaux où on est plus ou moins concerné, etc. Et on a ce problème-là quand même par rapport. À ce qu'on pourrait appeler un mouvement végétarien ou quelque chose comme ça.
De toute façon, dans les villes, mieux manger, mieux vivre, c'est aussi avoir de l'argent. C'est avoir les moyens de se payer des patates qui coûtent deux fois plus cher que les autres. Quoi.
Et puis par rapport à la technologie, moi j'ai l'impression quand même qu'on est lié comme par une pieuvre. Par exemple, j'ai envie de demander qui n'a pas de téléphone portable dans la vie ? Une personne, un irréductible gaulois, non ? Non.
Attendez, oui. Une, deux, trois.
Oui, bon, il y a très peu de gens qui n'ont pas, bon, quelques irréductibles, mais il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire qu'on est malgré tout presque obligé par son employeur, par n'importe quoi, à être joignable. Ton rendez-vous n'est pas arrivé, hein, et donc finalement, c'est quelque chose. C'est bizarre, c'est l'open prolétariat paradoxal. On est obligé d'être possesseur de ses moyens de production, à savoir le téléphone portable qui fait partie de la vie. On est obligé d'avoir un ordinateur, on est obligé d'avoir ci, d'avoir ça, etc. Alors moi, j'ai eu un prof de philo qui avait rien. qui écrivait à sa hiérarchie des lettres en disant je serai absent tel jour, la lettre arrivait 3 jours plus tard. Bon, mais malgré tout, en général, on est plutôt obligé. Donc, comment se sortir de ça finalement? Parce que si tout le monde est obligé d'être lié par soi-même et par les autres, comment finalement sortir d'une consommation de type téléphone portable, par exemple, qui change tous les ans, qui tombe en rideau au bout d'un an? Enfin bon, là, je décris.
L'obsolescence programmée.
Oui, ça c'est clair. Hein, c'est...
Il y a un bouquin qui s'appelle, je me rappelle plus quelque chose, je me rappelle plus exactement le titre que j'ai lu il y a pas longtemps, qui parle des low tech en fait. Il y a pas mal de mouvements qui sont un peu comme, on va pas comparer ça aux ludites au 18e, mais qui veulent une utilisation plus intelligente des technologies et pas abusive dans le côté consommateur, c'est-à-dire voilà donc. Un téléphone portable, ça peut être intéressant, mais est-ce que ça a besoin aussi de fonctionner comme une télé, comme un, je sais pas quoi, ça peut être juste un téléphone, un petit téléphone, ce qu'on avait au début, qui marche très bien, voilà. On peut aussi ne pas avoir besoin d'un ordinateur tous les jours, ne pas être connecté tous les jours. Il y a pas mal de gens qui commencent à prendre je pense qu'ils sont gavés, en fait, il y a une surconsommation de trucs inutiles et technologiques, on peut voir, je sais pas, même sur les ordinateurs, vous avez un exemple qui est dingue, c'est que le nouveau Windows là qui est sorti, je sais plus quand, Windows 10, qui est supposé être un système d'exploitation qui doit vous permettre de vous servir de votre ordinateur. En fait, quand vous l'allumez, vous apercevez que c'est juste une sorte de boutique qui va vous pousser à faire plein de trucs que vous n'avez pas besoin de faire, d'aller acheter des conneries, de la musique, du machin, des trucs. Et qu'il faut passer 10 heures pour virer tous ces trucs-là pour enfin pouvoir vous servir de votre ordinateur. Et puis il y a des gens qui vont aller acheter Linux, sauf pas acheter parce que c'est gratuit, qui vont installer Linux. Alors c'est moins confort, mais pour bosser avec un ordinateur, c'est pareil. Donc il y a quand même un mouvement qui se développe doucement de gens qui refusent l'hyper-technologie. Le fait que, voilà, on peut vivre avec, on peut vivre probablement mieux avec moins de technologie, voilà.
Oui, enfin tout ça c'est bien, mais c'est très nombrilistique parce que le plus grand danger pour la planète à l'heure actuelle, c'est la bombe humaine, c'est le développement gigantesque du nombre d'humains qui, moi quand j'étais jeune, y avait 2 fois moins de monde. Maintenant, il y a je ne sais pas combien de milliards. Dans quelques années, il y en aura encore plus. Pour ces gens-là, les ordinateurs, ils ne savent même pas ce que c'est. La seule chose qu'ils veulent, c'est vivre. Donc, ils allument des feux, ils coupent les arbres, ils ravagent tout, ils épuisent tout. Et puis, ils le font parce qu'ils ont besoin de vivre, sinon ils meurent. Et tant que les gouvernements n'instituront pas l'enfant unique ou au maximum 2 enfants par couple, comme l'avait fait la Chine, eh ben la planète, elle est foutue. Et quand il y aura des migrations par millions qui monteront vers le nord qui est plus développé, eh ben, le chaos, il commencera à être là. Et de toute manière, sur la zone où ces gens-là qui n'ont rien vivent et épuiseront toutes les ressources, eh ben, la planète, elle est quasiment foutue. Il n'y a qu'à regarder Madagascar et puis les dommages qui sont en train d'être causés et de voir que c'est le prototype de ce qui va arriver à la planète. C'est plus important que de bouffer vegan. C'est juste que s'il n'y a pas ça, ben, c'est la mort. Et puis c'est tout. Et puis il y aura des guerres gigantesques. L'immigration, même pacifique, c'est une forme de guerre. Et il y a un moment où ça va devenir vraiment difficile.
Ouais, 2 choses. Au niveau consommation, une personne, nous, par exemple, n'importe qui parmi nous, a une consommation par rapport à quelqu'un qui va habiter, par exemple, je pense, en Indonésie ou en Afrique, qui est démultiplié, quoi. On consomme énormément. Que ça soit d'énergie, de bouffe, de trucs, donc ça déjà. Autre chose par rapport à la politique de l'enfant unique qu'il y a eu en Chine, qui n'existe plus, qu'ils ont enlevé.
Ça, maintenant, c'est 2 enfants, oui.
Ça a limité la population, mais c'est compliqué. Hein. On peut faire ça dans une dictature. Dans une démocratie, c'est un peu plus compliqué de faire admettre aux gens. Alors, il y a une idée d'éducation. On peut les sensibiliser au fait que, effectivement, on est trop nombreux sur Terre. La dernière fois on était trop nombreux sur Terre, c'était enfin sur Terre en Europe, parce que c'était pas sur Terre. Entre le 11e et le 13e siècle, il y a eu une grosse montée démographique en Europe. il y a eu vraiment beaucoup de monde. Et puis à la fin, il y a eu la peste noire qui a buté à peu près la moitié de la population, ou un tiers. Et on a mis à peu près 5 siècles à retrouver les mêmes niveaux démographiques. Donc on s'aventure, on va peut-être d'une sorte de réaction qui n'est pas pensée, mais de sorte de... un moment, ben voilà, il y a trop de monde et il se passe quelque chose et qui va faire une sorte d'apocalypse démographique.
Oui, hein. La famine.
Ouais, la famine, c'est pas la même chose, la famine, hein, parce que ça arrive régulièrement dans des pays. En Chine, notamment, il y a eu des famines monumentales avec des millions et des millions de morts. Ça les empêche pas d'être le pays le plus peuplé du monde. On verra. On verra, mais c'est vrai que c'est pas rassurant et que on n'est pas sur le bon chemin, là.
Oui, donc je me disais, en vous écoutant, vous êtes comme des prophètes. Puis d'ailleurs, vous avez une barbe tous les deux.
Voilà, ouais. Et à la fin, on s'envole, on a des
la
ailes.
La parole
dans le dos, ouais.
Prophétique. Et j'avais une hypothèse complètement idiote. Je vais la tenter. Hein. C'est le patriarcat et la mort. C'est-à-dire, est-ce que notre vision de la mort n'est pas liée à la structure patriarcale au sens large de notre société, donc qui considère qu'on est toujours suivant une ligne qui va vers la mort, alors qu'on pourrait imaginer quelque chose de plus cyclique. Je sais que c'est complètement théorique par rapport à ce qui se passe en vrai, mais posons quand même la question comme ça de manière théorique. Si on regarde le patriarcat, à quel point il est lié à la mort, je pense, Ramsès II qui creusait dans les murs des trucs de 1 mètre de profondeur, les hiéroglyphes pour dire je suis Ramsès le meilleur du monde, 1 mètre de profondeur, et puis Gloïm, fils de machin, fils de truc, enfin toutes ces structures, avoir l'enfant, qui aura l'enfant, la filiation linéaire par le père, et la mort, le combat, le choc des titans, Watchmen, Truckmen, Matchmen, Men in Black, ouais. Le Roi Lion, tout ce que vous voulez.
Et Margaret Thatcher, ouais.
Non, mais est-ce qu'on n'aurait pas finalement une parole qui serait profondément de notre temps, parce qu'on ne serait pas encore sorti d'une vision, alors je ne dis pas patriarcale au sens les hommes, les femmes, je parle vraiment de la structure même de la vision qu'on a qui est patriarcale, c'est-à-dire notre obsession absolue de la mort individuelle, ou de la mort même collective quand il s'agit de... Alors la mort collective n'est pas appréhendée de la même façon, hein, quand c'est un attentat, c'est appréhendé de telle façon qu'on ne peut plus faire une seule manif, quand il y a 600 Chinois qui meurent le hang-o qui déborde, c'est pas appréhendé pareil, hein, c'est évident, là aussi comment on classe l'information de mort qu'on reçoit sans cesse, mais je me disais quand même, il y a des moments quand on regarde tous les films et tout, est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose, et peut-être à ce moment-là ça donnerait peut-être plus confiance aux gens pour reprendre le fil d'un vrai travail. Enfin, sur...
Tu sais, le tout va oui. Très bien, madame la marquise, ça marche pas terrible.
Non, c'est pas ce que je dis que si on était moins dans cette obsession linéaire angoissée, est-ce que justement ça aiderait pas les gens à cette prise de conscience nécessaire aujourd'hui.
Mes frères, accueillons la fin du monde dans la joie et la bonne humeur.
Non, c'est pas ça. Non, c'est la secte Moon. Oui, voilà, je vais sortir mon bâtard. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire que cette fin du monde, est-ce que finalement, ça va pas être comme ce que disait René Dumont sur l'île de Zanzibar. Enfin, je sais pas. Hein, je suis une grande relativiste et je sais jamais trop comment les discours de chaque époque formatent.
Mais t'inquiète pas, il y en aura toujours qui vivront dans des grottes ou dans des bunkers avec une petite dynamo et en faisant pédaler des enfants. C'est pas le problème, mais la biosphère,
elle sera plus là.
C'est marrant
que tu dises ça, parce que le pédalage, c'est justement un truc récurrent dans mon histoire de la fille geek. On a l'électricité en pédalant.
T'as encore beaucoup de bouquins à vendre comme ça?
Beaucoup, oui.
N'oubliez pas, hein, ils sont à la bibliothèque, là-bas, vous pouvez les acheter.
Non. Mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Les gens qui pédalent pour recharger leur portable dans les gares. Par exemple. Alors, je suis d'accord que le monde, mais c'est pas. Est-ce que c'est d'être dans l'angoisse hystérique qui va faire que ça va.
C'est pas l'angoisse hystérique.
Est-ce que cette angoisse va
juste une observation froide.
Oui, mais est-ce qu'elle va. Je doute de la moindre observation froide. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ça va aider les gens à prendre conscience de les terroriser comme ça. Est-ce que la terreur.
C'est pas une terreur. C'est juste des faits.
Oui, mais enfin, ils sont présentés de façon terrorisante.
Mais
par la fiction, par le cinéma.
L'apocalypse qui vient, si on peut dire.
Oui, voilà, l'apocalypse qui vient. Est-ce qu'on pourrait présenter les choses de façon différente pour être dans la lutte ? Non, pour être dans la lutte finale. Puisque tu cites Mao Tse-Tung, moi aussi.
non, mais. Je vois pas le. Le problème, il est un problème global. On ne peut pas réduire ça à des gens ou à des systèmes de société. Parce que
les systèmes de société.
Il englobe tout le monde entier. Donc ça, on a un problème qui est pour la première fois, je pense que c'est effectivement la première fois qu'on a un problème de société qui est global et qui est un problème écologique, entre autres. Mais alors qu'avant, ça allait concerner des pays, des empires qui s'effondrent, qui renaissent
leur sang.
Mais là, on risque d'avoir un effondrement global. Voilà. Donc, après, est-ce que. C'est pas sûr, hein. Nous, on n'est pas. Tu disais qu'on était prophète, mais non, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Il va peut-être y avoir une prise de conscience phénoménale dans 10 ans et que tout d'un coup tout va s'inverser, tant mieux. Mais
ça serait bien.
Mais pour favoriser. Moi, je parle en termes de pédagogie. Pour favoriser cette prise de conscience, est-il nécessaire de continuer à générer des modèles hystériques de mecs hurlants en train de taper sur d'autres mecs hurlants et tout le monde mourant?
C'est pas ça qu'on en prend.
Est-ce que ça va aider? Voilà, c'est ça la question.
On n'apprend pas ça aux enfants ou aux gens. C'est l'apocalypse de...
Mais tu sais, là, c'est pas religieux.
Ça, c'est une bonne chose, ça.
C'est 11h59, ça n'a rien à voir, c'est juste à minuit, c'est la destruction.
Cette apocalypse-là...
Les religions ne sont même pas là.
Pardon. L'apocalypse religieuse chrétienne, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça annonce la fin des temps. Les gens meurent, mais ils revivent. Et c'est l'arrivée de la Jérusalem céleste, la parousie, et on vit dans un monde parfait, fini. Mais c'est vrai, c'est pas un truc dont on devrait avoir peur. Parce
Dieu,
que...
quel ennui!
Mais oui, non, mais le problème, c'est que moi, je crois pas qu'il existe, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein.
C'est pas l'implosion totale de la Terre, en fait, ça va arriver quand même, ce qui s'annonce là dans les soucis climatiques.
Bah, c'est juste.
Ou un quart, ou une bonne moitié, ou les deux tiers.
Ou les 9/10, ou...
Mais à la limite, c'est pas ça qui est gênant. Il y en aura encore de toute manière qui survivront. Ce qui est gênant, c'est pour toutes les espèces qui meurent, pour tout ce qui s'épuise. Et ça, c'est dramatique. Ah, mais la Terre, elle s'en fout complètement. Elle est passée en fusion. Elle a pris un météorite gigantesque qui a causé la Lune. La Terre, elle s'en fout complètement. Non, elle disait que l'oxygène a été une catastrophe.
Pour les bactéries anaérobies, je me mets à la place de la bactérie
elles sont
anaérobie.
Toujours là,
mettez-vous
les bactéries
à sa place.
Anaérobies.
Elles sont toujours là, elles ont réussi
elles
à
sont
se planquer.
Toujours là.
Elles sont là.
Elles vont bien.
Elles se sont planquées.
Je savais bien que tu étais une bactérie anaérobie.
Oui, oui, déguisée en humain normal.
Tu n'as pas peur que ton combat soit un peu d'arrière-garde?
C'est vrai que c'était il y a quelques milliards d'années, il faut bien l'avouer. Donc,
après, oui,
d'accord.
Ça dépend sur quel... Est-ce qu'on parle de nous, de l'humanité, ou est-ce qu'on parle de la... Terre en général qui se
de la biosphère, c'est tout.
Qui survivra à plein de choses, la nature. Il y aura autre chose après, voilà.
Ah bah de toute manière, oui, ça sera une autre. Dans les milliards d'années qui resteront, ça se développera, ça sera autre chose. Bah, tout sera pas éteint. Il y aura d'autres races, d'autres créatures. Comme après toutes les extinctions, il y aura toujours une petite zone où ça survivra. Il y aura une petite graine et ça va se redévelopper. Oh, mais là, on en est au-delà. Le jour où, si jamais ils réussissent la fusion et que là, d'un seul coup, l'énergie deviendra illimitée, bon, bah, peut-être, ça serait bien, ouais. Mais après, malgré tout, la bombe démographique, il faut absolument l'arrêter. Hein. Parce qu'elle, elle balayera tout sur son passage.
Et puis ça.
Ah, bah, c'est mon opinion, c'est tout. Oui, mais enfin bon, c'est quoi que tu vois comme terre? Ça peut être aussi recouvert de métal, avec des dômes de protection, des maisons qui ont leur bulle d'oxygène à eux, où on paye tous les mois une redevance à l'oxygène.
Non, mais...
C'est pas... Oui, il y aura toujours la terre, il y aura toujours des humains, mais alors dans quel état, quoi, tu vois?
Moi, je pensais qu'il y aurait carrément plus d'humains, qu'on était un peu comme les dinosaures.
Il y en a toujours un ou deux qui...
Il y aurait une disparition globale de l'espèce humaine peu adaptée.
C'est comme les bactéries anaérobies, il y en aura toujours une.
C'est dommage que l'humain, il est neuf, il est jeune, il a encore un cervelet de bestiole pas bien développé, il fait encore des bébés trop gros par rapport à, contrairement à des animaux très sages comme l'ours ou l'éléphante.
Mais
et,
c'est pas
du
des...
coup, et du coup, est-ce que c'est une race toute débutante, enfin une race, un truc, là, une espèce, je sais pas, les espèces n'existent pas, paraît-il, j'emploie des termes c'est illégaux.
Si.
Non, la notion d'espèce n'est pas scientifique.
C'est la race.
Tu parles de race.
Non, je ne parle pas de race, je parle bien de...
Mais pour en revenir au débat...
L'espèce, c'est une notion non scientifique. Ah bon, ça fait rien, on l'emploiera quand
t'es
même.
T'es sûr qu'entre le tétard et l'éléphant, il n'y a pas de différence?
Non, je suis sûr que la notion d'espèce est fausse, puisque c'est aussi une vision qu'on a qui est bizarre. Actuellement, aujourd'hui, 5000 espèces de plantes ont disparu. 5000. Tout le monde s'en fiche. Hein,
variété.
manifestement. Alors, si c'est un bestiau qu'on a identifié comme proche de nous, hein, l'éléphant, le panda, le je sais pas quoi, là on se dit, ah mon Dieu, gentille petite bête, elle va disparaître, et nous aussi on est une gentille petite bête, on ressemble terriblement au panda, on a des petites mains et des petits yeux, on est des petites marmottes. Bon, ça, ça va disparaître.
Mais pauvres bactéries anaérobies, tout le monde s'en fout.
Et tout le monde se fout de la disparition des cafards noirs. Non, ils risquent pas de disparaître.
Je suis très concerné par la disparition des cafards.
Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait se demander quelle espèce va survivre?
Absolument.
Quelle espèce survivra à l'apocalypse?
Non, mais il y a des espèces qui disparaissent. Là, en ce moment, on accélère le processus. C'est ça qui est un peu gênant.
Oui, il y en a des milliers qui disparaissent tous les ans.
Parce que naturellement, il y a des espèces qui disparaissent. Il y en a d'autres qui apparaissent.
5000 plantes. Mais
nous, on a quand même tendance à flinguer beaucoup de choses. Mais par rapport à ce que vous disiez, le problème, c'est qu'on a, c'est une question morale. C'est est-ce que on est dans une civilisation qui, enfin, une myriade de civilisations qui est en train de se mondialiser. On arrive à un niveau de technologie qu'on n'a jamais atteint. On arrive à un niveau de démographie aussi qu'on n'a jamais atteint. Est-ce qu'on est voué à imploser? Est-ce qu'on a atteint est-ce qu'une race intelligente ne peut pas aller plus loin, ou est-ce qu'elle est pas capable de gérer elle-même les problèmes qu'elle engendre? Est-ce qu'on est voué à une sorte d'extinction, ou du moins une sorte de compression drastique, ou est-ce que on est capable de prendre conscience en tant qu'humain que on est en train de faire de la merde, on est en train de bousiller beaucoup de choses, et qu'on a ou on va bientôt passer un point de non-retour? Voilà. Et après, ben oui. Après, effectivement, s'il y a une catastrophe, oui, ça va passer, ça va se passer. Si la civilisation peut s'effondrer, elle peut revenir. Rome s'effondre, 500 ans après, on a une civilisation qui est florissante en Europe, mais ça prend 500 ans. On est sur l'Europe, on n'a pas des phénomènes de destruction pareils, parce que à l'époque, voilà.
Carcan culturel, voilà, c'est ça.
Il faut déjà que la majorité des gens prennent conscience, et aient vraiment conscience qu'on est en train de foutre la merde. Et c'est peut-être le cas dans la salle, mais c'est pas dans le cas dans le monde ou à l'Assemblée nationale. Déjà, la prise de conscience, elle est importante. Et c'est pour ça que les petites actions, qu'elles soient des toutes petites actions ou des actions individuelles, ça y contribue, quoi.
On a ramené le micro exprès pour les enregistrements, en fait, ça va être beaucoup plus simple.
Ouais, je trouve quand même important de revenir sur cette histoire des répartitions des richesses et des questions de mouvement social ou de changement de société, parce qu'en fait, c'est hyper réac d'amener la question de la surpopulation et des questions démographiques sans poser la question de l'ordre mondial et de la question de l'Occident, de la colonisation et du capitalisme. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement qu'on se répète ensemble qu'il faut que les gens prennent conscience qu'ils sont en train de faire trop d'enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on détruit peut-être le système de domination occidentale et capitaliste qui impose un mode de vie et de consommation qui fait qu'effectivement, on ne peut pas vivre tous ensemble sur cette planète en ayant tous des téléphones portables et en bouffant des produits transformés et diversifiés tous les jours. Pour moi, effectivement, je trouve ça important de dire, oui, je pense qu'on peut être très nombreux à vivre ensemble, et peut-être même encore plus nombreux qu'on est, et que par contre, il y a des choses à détruire là où il y a des centres de pouvoir et de responsabilité et un mode de production économique, industriel, etc., qui est fortement responsable aussi en termes environnementaux. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé dans ce que vous avez dit depuis le début qu'à différents moments, il n'y avait pas assez de connexion entre les questions politico-sociales et la question de la catastrophe. Et aussi qu'il n'y avait pas de critique de l'idéologie de la catastrophe, parce que la catastrophe, on en entend parler tous les jours dans notre société, ici, et on nous apprend à la co-gérer, on nous apprend à être hyper docile, on nous apprend à individualiser les solutions, que le problème, c'est notre petite consommation personnelle, qu'il faut éteindre nos interrupteurs et consommer bio. Et là, derrière, il y a un projet politique de juguler le mouvement social et la contestation et d'individualiser les responsabilités pour pas pointer des choix de développement, des choix civilisationnels et des choix oppressifs qui sont structurels. et à un moment qui ne produisent pas du mouvement social. Du coup, moi, c'est ce que je trouve intéressant, et aussi dans la littérature et la science-fiction, c'est qu'on aille tirer, en termes de projet politique, des choses qui vont du côté de la transformation sociale, et pas des choses qui vont du côté du catastrophisme et de la peur de la surpopulation, et qui alimentent aussi les racismes, les exclusions, les...
Là, tu mélanges absolument tout. Ça serait bien qu'il y ait un gouvernement mondial ? Oui. Est-ce qu'on est capable d'avoir un gouvernement mondial ? Non. Pourquoi ? Les intérêts de chacun. Ça n'a rien à voir avec la politique. Va expliquer à Madagascar, dans les zones où ils sont obligés de cramer les forêts pour planter et que 2 ans après, le champ, il est foutu, va leur expliquer. Eux, ils veulent juste vivre et bouffer. Le problème, c'est que, que ça soit dans une démocratie avec plein de pognon, s'il y a trop de gens, ou dans un pays pauvre, s'il y a trop de gens, de toute manière... c'est la fin d'une grande partie de la population.
Moi, je suis assez d'accord, au contraire, avec tout ce qu'elle a dit, parce que je pensais au Japon. Mais les trains au Japon...
C'est parce qu'on est féministes toutes les deux, c'est pour ça.
Ça n'a rien à voir avec le féminisme.
Je me suis dit, ça a énormément à voir avec le féminisme.
Ça serait un barbu,
le féminisme,
j'aurais dit la même chose.
Moi, j'ai écrit un hymne à l'homme féministe, entièrement pompé sur son gore. Homme féministe, tuer notre avenir, tuer l'homme qu'il nous faut. Il n'y a pas de raison de foutre les hommes en dehors du féminisme. Là, il faut arrêter. On est inclusive.
Quel est le rapport avec le féminisme?
Le rapport avec le féminisme, non, mais c'est ce qu'elle veut dire. Alors attendez, j'ai peut-être. En fait, je crois que tu as raison, on est un peu le cul entre deux chaises. On est là pour parler de science-fiction, alors on essaie de raconter un peu ce qu'on a envie de dire sur la question, et en même temps, on est là pour réfléchir, et on est à cheval entre les deux, donc on n'est peut-être pas allé au bout. Peut-être ce que tu es en train de dire, c'est que la science-fiction sera politique ou ne sera pas. C'est-à-dire, c'est fini la guerre des étoiles et les machins, à présent, la science-fiction sera politique ou ne sera pas. Et je suis sûr que là, tout le monde est d'accord. Parce que. Toutes vos science-fictions sont politiques, même si elles ne le disent pas en hurlant, je suis sûr que c'est vrai. Enfin,
non, mais pour en venir à ce
monsieur
que
voulait parler.
Tu vois,
il y a Karim qui veut rajouter quelque chose.
Tu vois, je suis d'accord avec toi, changeons le système. Changeons le système. Mais franchement, entre sensibiliser les gens à un problème écologique et à balancer le système qu'on a pour essayer de construire quelque chose de meilleur, je suis désolé, mais il y a un truc qui est vachement plus facile à réaliser que l'autre. Et puis, par rapport à la science-fiction, écrire des mondes parfaits, c'est facile, les écrire. Essayer de les mettre on l'a vu, tu vois, en application, ça c'est compliqué. On l'a vu dans les expériences de communautés anarchistes qu'il y a eu, notamment le siècle dernier. Ça marchait bien, comme ce que je disais tout à l'heure, ça marchait bien, 20, 100 personnes. Après, ça marche plus. Parce que, pour plein de raisons, dans les milieux d'extrême gauche où j'ai pas mal traîné, où je pense qu'ils ont des bonnes idées, ils se bouffent la tête pour des conneries, parce que arrivé à un moment où on veut plus de leader, on veut plus rien, c'est plus difficile. Non mais moi j'écris pas de monde parfait. Hein, je te dis que c'est plus facile de trouver la réponse. C'est plus facile de trouver une réponse par écrit Alors après oui changeons la société. Je suis d'accord avec toi. Je veux bien le faire. Mais il va falloir que tout le monde soit d'accord ou alors qu'on fasse la révolution. Tu vois. Et la révolution n'a pas forcément.
Et de toute manière la révolution, je sais pas, 160 États différents. Tu vas pas faire la révolution dans 160 États différents. Je dis peut-être une bêtise. Il y en a peut-être moins, mais c'est vrai qu'un gouvernement mondial, ça serait génial, mais on ne l'a pas et on n'est pas prêt de l'avoir.
Non, mais en fait, du coup, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Et voilà. En fait, Karim Merouka disait tout à l'heure, il faut prendre conscience, il faut que les gens prennent conscience. Je vais me permettre de mettre un peu de psychologie là-dedans parce qu'on est sur le domaine de la persuasion. Et c'est l'idée que convaincre des gens suffit à transformer les habitudes, les comportements. En fait, en psychologie, ça ne se passe pas comme ça. On peut convaincre très bien de quelque chose, ça ne va pas se traduire par des modifications au niveau de son comportement. C'est deux étapes qui sont tout à fait différentes. Je peux convaincre tout le monde que la cigarette, ce n'est pas bon pour sa santé, pourtant, ce n'est pas ça qui va suffire à ce que tout le monde arrête de fumer.
Mais je ne te parle pas de convaincre les gens, je te dis qu'ils prennent conscience. Si tu prends conscience, toi,
que tu es
en train de te flinguer
les
poumons, ça peut quand même avoir un effet, alors peut-être pas sur toi, mais sur beaucoup de gens qui vont arrêter de se.
Là, c'est des travaux vraiment sur la persuasion en psychologie sociale qui ont été faits sur plusieurs années, entre changer, même prendre conscience d'un problème, et que ça se traduit concrètement par des comportements.
Mais ça se traduit actuellement par des comportements.
Mais ça va venir, mais ça ne fait pas si automatiquement.
Ah non.
C'est juste que le
Et je reviens sur ce que vous disiez en tant que féministe sur la lignée patriarcale. Aujourd'hui, vous essayez de convaincre une population qui est à elle seule une classe dominante. On est une classe dominante à l'échelle mondiale, comme une grande entreprise, comme une multinationale, la société française, européenne. Aujourd'hui, toute personne qui gagne plus de 1 200 € par mois en termes de pouvoir d'achat et de consommation, c'est 10% de la population mondiale. Nous sommes une classe dominante et inconsciemment, on veut défendre nos intérêts pour demain, même si nous avons de beaux discours aujourd'hui et même si à l'intérieur de nous, on est persuadé de vouloir le meilleur pour notre société, pour ma famille, pour les autres pays, les autres populations et l'ensemble des écosystèmes. Il y a un risque que vous avez pointé, c'est qu'en étant catastrophique et catastrophiste, on veut se défendre nous-mêmes des conséquences à venir dans 10 ans, 30 ans, 40 ans. Et on se battra demain contre les plus pauvres qui sont aujourd'hui les dominés. En ça, vous avez raison, c'est-à-dire que ça peut paralyser parfois. Cette prise de conscience peut nous pousser à nous retrancher et à se dire, comme le directeur d'une multinationale comme Ford dit, je ne vois que mon bénéfice immédiat, je me protège, je ne veux pas voir la réalité et je vais poursuivre que mes intérêts égoïstes. Et notre société aujourd'hui, peut-être que, et là c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on se regarde le nombril en changeant des petites choses qui vont, comme par hasard, dans notre intérêt général, vegan pour aussi vivre mieux, pour manger moins de la merde, pour manger meilleur, mais l'essentiel n'est pas forcément là. L'essentiel est dans la révolution qui arrive et qui fait qu'on devra aller au-delà de nos petits changements cosmétiques, mais accepter qu'on ne soit pas demain. Il faut un altruisme qui nous dépasse complètement. Renoncer à notre dominance aujourd'hui, c'est un travail qui est énorme. Est-ce qu'on peut le faire en démocratie? Mais c'est possible. Mais je le souhaite.
Non, mais je suis d'accord. Mais je
le souhaite, mais est-ce qu'on le fera en démocratie ou est-ce qu'il faudra qu'il y ait une organisation un petit peu plus autoritaire qui nous oblige à aller au-delà de nos égoïsmes? C'est une vraie question, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir.
Mais on sait bien que les dictatures fonctionnent très bien pour imposer les choses aux gens, mais alors après pour imposer les bonnes choses c'est beaucoup plus rare. Mais je suis d'accord avec toi, mais comment veux-tu que tout d'un coup une population en France de 60 millions de personnes se dise tout d'un coup oh il faut passer outre cette société de domination et tout ça et on va tout d'un coup devenir des gens bien dans la tête et tout ça? Mais ça c'est plus que de l'utopie, je veux dire. Si tu veux changer des trucs dans une société, déjà, s'il y a une force d'inertie énorme, t'as tout un pouvoir qui est installé. Alors, soit on bousille tout, apocalypse, et on part de zéro. Ça, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Soit, on se dit que il y a des choses qu'on peut changer parce qu'on fait partie d'un monde qui est pas parfait et qu'on aimerait qu'il soit un peu plus parfait. Et en ça, on bosse sur des trucs. On va aller voir. Et c'est des trucs individuels. Je suis d'accord. Mais ça vient des gens. Ça vient des gens. Mais sache que pour une personne qui a pensé comme toi, t'en as deux qui vont dire oui, c'est intéressant, mais je vais récupérer ce que tu dis dans ton discours qui m'arrange. Donc voilà. Et qu'au bout d'un moment, t'auras trois individus qui penseront pas la même chose. Je sais pas. C'est bien de vouloir changer les choses. Je suis d'accord. Il y a des choses qu'on peut changer progressivement. Il y en a d'autres qui tiennent qui vont rester au niveau de la théorie et qu'on ne pourra jamais avoir parfaitement appliqué. Quoi. Je pense que ça dépend des individus, je suis désolé.
On peut le faire, on peut toujours le faire, on pourrait arrêter, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Et puis il faudrait surtout que les multinationales et les cartels arrêtent de viser le bénéfice absolu et puis commencent à faire quelque chose pour l'écologie. Mais il y a peu de chance.
On va prendre une dernière question.
Pour la question écologique, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de mettre de côté nos nationalismes et de s'en remettre à une organisation supranationale, seulement pour l'écologie, bien sûr. Enfin, on n'a pas.
Oui, mais tu sais, regarde déjà l'ONU, le truc le plus supranational qu'on ait. S'ils demandent d'arrêter une guerre dans un pays, ils n'y arrivent pas. Hein. Même dans un tout petit pays.
On est obligé d'envoyer des casques bleus. Ça serait bien, mais il faudrait que cette organisation ait des pouvoirs gigantesques.
On a juste 2 minutes pour prendre une dernière question, s'il y a.
Oui, moi, juste pour revenir sur les trucs des pratiques individuelles, que c'était un peu mis de côté, que c'était pas terrible, etc. Enfin, c'était pas suffisant. Et pour faire le lien aussi avec la psychologie, il y a des études qui ont vu que le critère principal pour que des gens installent des panneaux solaires sur leur toit, par exemple, c'était que leurs voisins en avaient. Donc, est-ce que les petits trucs individuels comme
moi,
ça, mais un voisin...
Moi, j'habite à la campagne, le maire, il veut pas de panneaux solaires.
Oui, non, mais voilà. Mais le truc que je veux dire, c'est qu'il y a une personne qui fait une action. Est-ce que
mais,
ça peut
mais
pas
mais
en entraîner 10 ?
Mais on peut tous faire quelque chose. On peut arrêter de faire des barbecues avec du bon charbon de bois et puis les faire sur un truc électrique. On peut arrêter de cramer 25 bougies toutes les 5 minutes. On peut tous arrêter. On peut passer à l'induction plutôt qu'au chauffage au gaz. On peut, pareil pour les chaudières, pour tous ces trucs-là. Mais il faut que tout le monde le fasse en même temps, si tu veux. Et puis en plus, il faut que ça soit fait d'une manière planétaire. Et là, bon courage. Bon.
Non, mais
il faut essayer, oui.
Tu sais, l'histoire des panneaux solaires, qui est un truc anecdotique peut-être, mais il y a 30-40 ans, les panneaux solaires, il n'y avait que des illuminés qui mettaient des panneaux solaires chez eux. Hein. Ben voilà, alors bon, c'est pas le truc parfait. Aujourd'hui, on installe des éoliennes, c'est quand même mieux qu'une centrale nucléaire, et ça se fait progressivement, et ça, c'est un long travail, et voilà.
On arrive à l'heure fatidique pour la fin de cette conférence. On vous remercie d'être venus aussi nombreux.